Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins.
La mer, le vent, un radiateur en fonte, j'en sais rien moi, un tram en retard ou autre chose. De toute façon, il n'y a aucun sujet qui soit poétique par essence. Hein. Et vous voyez ce que je veux dire, la poésie n'est pas en dehors, elle est au-dedans de vous. Ce qu'est la poésie, ne me le demandez pas, regardez dans le miroir, la poésie c'est toi.
Bienvenue sur les chemins du vendredi où chaque semaine nous tentons de réconcilier philosophie et actualité sous toutes ses formes. Problématique du jour, personnalité et essai en tout genre, une autre manière de tendre le micro à la philosophie en train de se faire. Et l'équipe des Nouveaux Chemins, c'est aussi la philosophie en train de se faire. Marianne Chassor, Colomba Grossi, David Pargamin, Marie Aubert, Antoine Ravon, Lucie Tardy et bien sûr Adèle Van Rett, avec Nicolas Berger à la réalisation, Jean-Louis Jacopin à la lecture des textes et à la prise de son Alain Joubert. La motivation fondamentale est le point de départ de ce travail, qui en constituera aussi le point d'arrivée, et la volonté, indissociable d'une expérience, de conférer à la poésie sa portée métaphysique maximale, ou encore de l'aborder sous son versant le plus radical. Cela signifie que la poésie n'est pas un genre littéraire parmi d'autres, mais une expérience et un mode d'exister, ou plutôt un mode d'exister se nourrissant d'une expérience qui, s'il s'atteste de manière privilégiée dans l'écriture poétique, ne s'y épuise évidemment pas. De là le choix du terme de poétique pour désigner ce mode d'exister. Il est incontestable que celui-ci possède, en tant que tel, une dimension révélante. Son mode d'être signifie nécessairement une ouverture à un autre que lui. Notre conviction est que cette dimension constitutive du monde à laquelle le poétique livre accès n'est autre que celle du sensible comme tel. Ces mots, ce sont ceux de Renaud Barbaras pour ouvrir sa métaphysique du sentiment, un ouvrage qui vient de paraître aux éditions du Cerf 3 ans après Dynamique de la manifestation. Et pour comprendre comment et à quoi ouvre ce poétique, eh bien j'ai le plaisir de recevoir Renaud Barbaras lui-même, professeur de philosophie contemporaine à l'Université 1 Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour. Cette fois, il s'agissait d'un cerisier. Non pas d'un cerisier en fleurs qui nous parle un langage limpide, mais d'un cerisier chargé de fruits, aperçu un soir de juin de l'autre côté d'un grand champ de blé. C'était une fois de plus comme si quelqu'un était apparu là-bas et vous parlait, mais sans vous parler, sans vous faire aucun signe. Quelqu'un, ou plutôt quelque chose, et une chose belle, certes. Mais alors que s'il s'était agi d'une figure humaine, d'une promeneuse, à ma joie se fussent mêlés du trouble et le besoin bientôt de courir à elle, de la rejoindre, d'abord incapable de parler et pas seulement pour avoir trop couru, puis de l'écouter, de répondre, de la prendre au filet de mes paroles ou de me prendre à celui des siennes, et eut commencé, avec un peu de chance, une toute autre histoire dans un mélange plus ou moins stable de lumière et d'ombre. Alors qu'une nouvelle histoire d'amour eut commencé là comme un nouveau ruisseau né d'une source neuve au printemps, pour ce cerisier, je n'éprouvais nul désir de le rejoindre, de le conquérir, de le posséder. Ou plutôt, c'était fait. J'avais été rejoint, conquis. Je n'avais absolument rien à attendre, à demander de plus. Il s'agissait d'une autre espèce d'histoire, de rencontre, de parole. Plus difficile encore à saisir.
Renaud Barbaras, on vient d'entendre, interprété par notre comédien Jean-Louis Jacopin, un poème de Philippe Jacotet, Le cerisier, qui apparaît dans son recueil Cahiers de verdure de 1990. Alors ce n'est pas un poème que vous citez dans votre ouvrage Métaphysique du sentiment, mais en revanche c'est un poème que vous nous avez indiqué pour préparer l'émission. La première question que j'ai envie de vous poser, Renaud Barbaras, c'est en quoi ce poème, comme vous le dites au début de votre ouvrage que j'ai lu, ne fait pas de la poésie un genre littéraire parmi d'autres, mais au contraire une expérience croyance et un mode d'exister.
Alors, je ne cite pas ce poème parce que, j'en cite aucun, mais en revanche, l'œuvre de Jacotet, de manière tout à fait privilégiée, a constitué mon modèle implicite, en tout cas mon horizon implicite, lorsque j'ai écrit sur le poétique. Alors pourquoi ? Bon, ce serait un petit peu long de développer ça, mais parce que ça me paraît exemplaire de ce que j'entends par poétique, hein, non pas comme genre littéraire précisément, mais comme mode d'exister et comme expérience fondamentale, dont ce mode littéraire qu'on nomme poésie, dans le meilleur des cas, est la manifestation. Alors ce mode d'exister, évidemment, tout l'objet de ce travail, ça a été de l'expliciter, mais on voit bien dans le texte qui est donné que, contrairement à ce qui a été dit dans l'introduction,
enfin, la petite pastille
au début de cette émission, c'est qu'on voit bien en tout cas qu'il n'y va d'aucune façon de quelque chose d'intérieur, comme il est dit, il n'y va d'aucune façon de quelque chose qui serait de l'ordre de l'expression d'une activité, d'une intériorité, même d'un sentiment au sens commun où on l'entend, qui n'est pas du tout le sens auquel je l'entends dans ce livre, mais il va au contraire d'une rencontre, c'est-à-dire d'une expérience, et ici c'est l'expérience du monde comme tel, monde qui, en l'occurrence, est figuré dans ce cerisier. Au fond, si ce cerisier provoque cette expérience et ce sentiment dont Jacotet fait état, bah c'est parce que avec ce cerisier, c'est d'une certaine façon le monde tout entier qui vient, c'est plus précisément le monde, non pas bien sûr au sens commun d'une totalité d'objets ou des temps, mais le monde comme une sorte de profondeur irréductible, hein, une sorte d'opacité fondamentale qui ne se présente dans tel ou tel objet du monde qu'en s'y absentant, qui ne se présente que sur le mode de quelque chose qui demeure inaccessible.
Inaccessible par quoi ? Par la raison ? Parce que la perception va nous donner juste un élément découpé, absent, dont nous ne parviendrons pas à retracer, à ressaisir la totalité ?
Non, je dirais inaccessible par essence. C'est-à-dire, le propre du monde, et c'est ce qui distingue le monde d'un étant du monde, c'est-à-dire d'une chose du monde au fond, eh bien, c'est que précisément, il demeure absolument en retrait au sein de chacun des étants, parce que tout simplement, s'il était accessible comme tel, le monde, il cesserait d'être un monde et il deviendrait un objet comme les autres. Donc le propre du monde, c'est de s'absenter de tout ce qu'il présente, de demeurer en retrait dans tous les étants au sein desquels il se manifeste. Parce que tout simplement, c'est d'une certaine façon l'élément que tous ont en commun.
Est-ce qu'on peut dire que c'est le milieu dans lequel chaque étant vit, évolue ?
Absolument. Enfin, vit en tout cas. C'est le milieu dans lequel chaque étant se situe et qui lui confère son étantité. C'est-à-dire, au fond, sa présence en tant qu'étant. Et donc, le caractère irréductible et opaque, hein, par exemple, du cerisier en question, il tient précisément à la charge de monde en lui. Et j'ai envie de dire, c'est pas par hasard si c'est un cerisier et non pas un artefact quelconque qui, d'une certaine façon, est irréductible à sa fonction et ne présente rien d'autre que lui-même, ne présente rien d'autre que la fonction à laquelle il est destiné. Par exemple, un marteau, ça me vient à l'esprit, exemple classique, vous voyez, le cerisier en question... Il présente justement le monde comme tel, c'est-à-dire ce qui lui confère sa présence irréductible en tant que telle chose ici, en l'occurrence en tant que tel cerisier. Donc le monde, vous voyez, c'est une sorte de profondeur, mais de profondeur ou de distance, mais qui n'est pas une distance réductible, parce que simplement elle n'est pas la distance de quelque chose que je pourrais rejoindre, vous voyez, mais c'est la distance du monde comme tel en tant qu'il n'est pas totalisable, objectivable, voilà.
Alors si c'est une distance qui n'est pas réductible comme une distance physique localisable, voilà. Pourquoi le langage, pourquoi en tout cas la poésie, le poétique, nous permet d'avoir accès à ce monde qui semble inaccessible, qui semble de fait opaque ?
Alors écoutez, c'est une question très importante et très radicale, mais qui d'une certaine façon est au cœur de ce travail. Je voudrais dire d'abord que précisément le langage, c'est fondamentalement un élément de séparation. Comme dit Bonnefoy, les mots sont notre chute, le langage est notre chute, c'est-à-dire que le langage, c'est ce qui nous sépare, alors non pas des choses, mais du monde comme tel. Et pourquoi ? Parce que le langage, il est, pour dire vite, objectivant. Hein, c'est-à-dire le langage, il est absolument corrélatif d'un monde d'objets. Et le prix à payer, en quelque sorte, de l'objectivation produite par le langage, c'est la perte de cet élément dont on parlait, c'est-à-dire la perte du monde comme tel. Donc le langage, c'est fondamentalement un élément de séparation. De ce point de vue-là, le langage est du côté non pas du sensible, mais de la perception, en tant que la perception est perception d'objet. Donc, si vous voulez, on est obligé de faire état d'une situation fondamentale de séparation, qui est ce que j'appelle le second sens de la finitude dans ce livre. Séparation vis-à-vis de ce monde. Simplement, il n'en reste pas moins que de ce monde, on peut parler, c'est ce que nous sommes en train de faire, et de ce monde comme tel, le poète peut parler, et il peut en saisir quelque chose à travers telle ou telle expérience, comme on vient de le voir. Donc la question qui se pose, eh bien, c'est qu'est-ce qui permet, en dépit de cette situation d'exil ou de séparation, qu'est-ce qui rend possible, c'était votre question au fond, un discours sur, qui soit poétique d'ailleurs ou philosophique. Ici, entre parenthèses, poésie et philosophie sont du même côté. Un discours sur ce monde. Eh bien, il faut reconnaître que la poésie, et ce que j'appellerais plutôt le poétique, parce que le poétique ne se confond pas avec la poésie, c'est-à-dire que le poétique excède la poésie, et il y a des poésies qui ne sont pas poétiques en ce sens. Le poétique, et de manière privilégiée néanmoins la poésie, c'est une sorte d'expérience par laquelle, ou de mouvement par lequel, le langage constitue un recours contre lui-même, c'est-à-dire se porte à sa propre limite et parvient à surmonter la séparation dont il est pourtant l'opérateur. Et je crois que c'est ce qui caractériserait la poésie au sens le plus haut du terme en tant que manifestation du poétique, c'est justement cette tentative extrême et extrêmement difficile de porter le langage, vous voyez, à sa propre limite et d'essayer de surmonter au sein du langage la séparation dont le langage est à la fois l'opérateur et la condition, vous voyez. Et je crois que, voilà, une œuvre comme celle de Jacotet, de manière tout à fait exemplaire, c'est cette tentative de renouer des liens avec cela dont le langage nous a séparés, à savoir le monde comme tel.
Et qu'est-ce qui est poétique dans le texte de Jacotet ? Est-ce que c'est l'expérience qu'il a vécue qui est par elle-même poétique, ou est-ce que c'est aussi la manière dont il la raconte ? Et là, on retrouverait ce que vous venez de dire sur ce paradoxe du langage. Est-ce qu'on peut vivre une expérience qui soit poétique, à savoir de retrouver le monde qui nous semblait opaque autrement que par le langage ?
Alors là, il faudrait s'engager sur un terrain qui n'est pas le mien, qui est celui d'une réflexion sur le travail poétique. Et ce serait là au poète de parler. D'ailleurs, Jacotet s'en explique dans toutes sortes de textes. Mais je dirais d'abord que il y a en effet une expérience. Mais cette expérience, comme on le voit dans ce texte qui a été lu au début, c'est celle d'une rencontre. C'est-à-dire, c'est pas tant le poète qui fait l'expérience de quelque chose qu'une sorte d'appel. Hein, c'est-à-dire tout à coup, et je crois que c'est le point de départ de cette activité poétique-là, en tout cas. Tout à coup, le quelque chose du monde, qui n'est pas un objet, en général, ça peut être une lumière, une atmosphère, etc. Ici, c'est un cerisier, fait signe, appelle, vous voyez, et suscite un mouvement. Mouvement, évidemment, qui peut en rester là, mais qui peut aussi et doit aussi appeler une élaboration linguistique, mais qui rame, si j'ose dire, à contre-courant du travail linguistique, puisqu'il s'agit de défaire au sein du langage ce que produit le langage, à savoir les séparations.
Mais la question aussi que je vous pose, c'est est-ce qu'on peut aller chercher délibérément, intentionnellement, ce monde ? Est-ce qu'on peut provoquer cette situation, en fait, d'existence, ce mode d'exister poétique ?
Écoutez, je suis au fond très mal placé pour en parler, puisque je ne suis pas un poète de profession, en quelque sorte, mais je ne crois pas. C'est-à-dire que
Finalement, c'est toujours une rencontre qui tient peut-être un petit peu du hasard.
Oui, enfin, si vous lisez d'ailleurs Jacotet lui-même, qui thématise assez souvent la venue au poétique, et donc la venue aussi à l'écriture poétique, c'est quelque chose de par essence imprévisible. D'ailleurs, à dire vrai, si on raisonne à l'inverse, ici, on imagine que ça puisse être prévisible, on voit bien que si ça relève d'une activité volontaire, méthodique, etc., etc., eh bien, ce qu'il y a à atteindre se trouverait perdu aussitôt. C'est-à-dire que le propre de ce monde, c'est qu'il échappe à une relation de maîtrise, une relation de possession, une relation d'objectivation. Et donc, par conséquent, il ne peut se donner que par effraction, en quelque sorte. Vous voyez ? Et donc, ce sont des expériences, je crois, que d'ailleurs chacun d'entre nous peut partager, peut vivre, des expériences de surprise. Et donc, c'est le poète qui est comme appelé, vous voyez, sollicité soudain, contre toute attente, par quelque chose, un événement, un objet, etc., et qui va lancer le travail d'écriture. Ce qui ne veut pas dire que ce soit simple et que ça ne suppose pas un travail interne à l'écriture, parce que, comme je vous le disais, il s'agit justement d'aller à contre-courant et de surmonter toutes sortes d'obstacles inhérents à l'activité linguistique. C'est pour ça que je disais, au fond, il faut réussir à faire du langage une sorte de recours contre lui-même, hein, vous voyez, de sortir du langage au sein du langage. Hein.
Oui, allô.
Vous faites du pop-corn ? Uh-huh. Moi, je n'en mange qu'au cinéma.
Ben justement, je vais me regarder une cassette.
Ah oui ? Laquelle ?
Oh, je sais pas encore, un film d'horreur.
Vous aimez les films qui font peur ? Uh-huh. Quel est votre préféré ?
J'en sais trop rien.
Mais si, le premier qui vous vient à l'esprit.
Halloween. Celui où une espèce de dingue qui porte un masque blanc s'en prend à des jeunes babysitters.
Ah, oui.
Et le vôtre ? Les griffes de la nuit.
Avec le type qui a des lames de couteau à la place des doigts.
Ouais, Freddy Krueger.
Freddy, oui, c'est ça. J'ai bien aimé celui-là. Ça faisait vraiment peur.
Le premier, oui. Les autres étaient craignos.
J'ignore toujours votre nom.
Ça vous avancerait à quoi de le connaître ?
J'aime bien savoir qui je regarde.
Qu'est-ce que vous dites ?
J'aime bien savoir à qui je m'adresse.
Non, vous avez dit autre chose.
Qu'est-ce que vous avez compris ?
Je vais raccrocher.
Ne me raccrochez pas au nez.
Vous pouvez aller vous faire foutre!
Écoute-moi bien, petite salope. Si tu raccroches encore une fois, je te saigne comme une truie. Oui.
C'est une plaisanterie ou quoi?
Disons plutôt un jeu. Oui, c'est ça, un jeu. Prête à relever le défi? Blondinette.
L'émotion de la peur n'est pas le sentiment de l'horrible. Elle est une certaine façon de réagir à l'horrible, lorsqu'il a été saisi comme un caractère du monde présent, et de se débattre dans le monde de l'horrible. De même, la gaieté n'est pas le sentiment du comique, mais la façon dont nous pénétrons dans le monde du comique et usons de lui. De même, la terreur et la pitié ne sont pas le sentiment du tragique, mais des réactions qui tiennent à la façon dont nous nous engageons dans le monde du tragique en nous associant aux héros de la tragédie. Peur, gaieté, pitié désignent des mouvements du sujet en un sens large des émotions. Si l'on entend par là non seulement des dérégulations, mais d'abord des entreprises, des départs d'action, quelle que soit par la suite l'allure de cette action. Tandis que le sentiment est connaissance, fût-ce cette connaissance éclair qui déclenche l'émotion et bientôt fait cercle avec elle. Et cette connaissance, réciproquement, est sentiment, parce qu'elle n'est pas réfléchie, et surtout parce qu'elle suppose une certaine disponibilité pour accueillir l'affectif, un certain engagement à l'égard du monde, par quoi il n'est ni pensé, ni agi, mais précisément senti. Ainsi, le sentiment a une fonction noétique. Il révèle un monde alors que l'émotion commente un monde déjà donné, soit pour le transformer magiquement, comme dit M. Sartre, et l'émotion est alors dérégulation, soit pour engager une action valable, comme dit M. Ricoeur.
Renaud Barbaras, vous citez tout au long de votre ouvrage « Métaphysique du sentiment » le philosophe français Michel Dufresne, dont on vient d'entendre, interprété par Jean-Louis Jacopin, un extrait de son livre « Phénoménologie de l'expérience esthétique » qui date de 1953. Et il y fait une distinction entre l'émotion et le sentiment, que vous reprenez aussi dans votre livre, pour souligner que le sentiment, comme le poétique, nous appelle au monde. Alors qu'a-t-on entendu dans ce film d'horreur juste avant, le film « Scream » de Wes Craven qui date de 1996, où une jeune fille qui badine au téléphone et tout à coup prise, voire surprise par la peur, est-ce qu'elle fait l'expérience du sentiment de l'horreur ou de l'émotion de l'horreur?
Alors, en effet, dans la seule référence qui apparaît dans cet ouvrage, c'est celle à Michel Dufresne, dont je voudrais dire que c'est un phénoménologue français très important, qui est un petit peu tombé dans l'oubli, mais c'est en train de changer, et c'est regrettable. On pourrait dire en deux mots qu'il a fait pour l'esthétique ce que Merleau-Ponty a fait pour la perception et ce que Ricoeur a fait pour la volonté. Et donc, c'est la plus grande phénoménologie esthétique dont nous disposions. Donc, c'est un auteur tout à fait important. Alors, en effet, le concept de sentiment que j'utilise, il vient en un sens de Dufresne, mais simplement c'est une radicalisation de la position de Dufresne au sens où Dufresne l'utilise dans le strict cadre esthétique. Et en effet, Dufresne fait la différence entre le sentiment en tant qu'il ouvre un monde, par exemple le sentiment du comique, et puis l'émotion qui est, comme il dit, qui commente un monde déjà donné, donc qui réagit à un monde déjà donné, par exemple le rire ou la gaieté, qui va réagir à une situation comique. Mais d'une certaine façon, ça veut dire simplement que pour pouvoir, par exemple, rire de quelque chose, il faut d'abord que soit ouvert le monde du comique, etc. Vous voyez ? Et donc la différence, donc ce sont deux plans tout à fait différents. Et donc moi, je me suis inspiré de cet usage du concept de sentiment en le radicalisant pour l'utiliser non plus dans le champ esthétique, mais dans le champ ontologique. C'est-à-dire que j'entends par sentiment ce qui permet l'ouverture du monde comme tel, ou l'accès au monde comme tel. Et donc, pour faire la transition avec ce que j'ai dit tout à l'heure, le sentiment, c'est exactement le versant affectif, si je peux dire, du poétique. C'est-à-dire que le poétique, c'est un mode d'exister, et la condition de ce mode d'exister, à savoir l'initiation au monde comme tel, eh bien, c'est précisément le sentiment. Alors, le paradoxe, c'est que, et j'y insiste, je veux y insister, c'est que, d'une certaine façon, le sentiment n'a pas d'autre contenu que lui-même. Je veux dire, en français, on parle des sentiments. Mais quand on parle des sentiments, en fait, on parle des émotions, on parle des affects. Moi, le sentiment dont je parle, il n'a pas d'autre contenu que lui-même, c'est le sentiment entend précisément que cette épreuve très singulière d'ouverture d'un monde. Donc, vous voyez, je l'entends d'un sens bien plus radical que Dufresne, qui lui, l'entend comme sentiment du comique, sentiment de l'horrible, etc. Moi, je l'entends comme sentiment tout court, c'est-à-dire épreuve originaire du monde comme tel, c'est-à-dire dans sa transcendance propre, vous voyez. Et donc, il n'est d'une certaine façon sentiment de rien, et je veux dire, et c'est très important, qu'il n'a pas de contenu propre ou de vécu propre.
Il n'a pas d'objet, en fait, c'est-à-dire comment distinguer la peur de l'angoisse, c'est-à-dire que la peur aurait un objet défini, on aurait peur du vide,
oui.
Alors que l'angoisse serait plutôt un état sans objet, et qui en revanche nous définirait.
Oui, en un sens, c'est-à-dire qu'il serait plus du côté de l'angoisse que de la peur, bien sûr, mais c'est beaucoup plus radical que cela, au sens où, encore une fois, il n'y en a qu'un sentiment, c'est-à-dire c'est vraiment la modalité originaire d'ouverture ou d'initiation à un monde. Alors, c'est pris évidemment dans ma théorie du désir, qui est le nom que je donne à l'intentionnalité, en tout cas la manière dont je conçois l'intentionnalité. Pour le dire autrement, si on pense la perception comme désir, comme je l'ai fait dans un certain nombre de mes ouvrages...
C'est-à-dire comme désir d'intention, c'est-à-dire on voit quelque chose qu'on désire voir?
Non. Alors, j'entends par désir un mode de relation originaire à l'objet qui est d'une certaine façon un mouvement, mais en un sens très particulier. Ce n'est pas seulement un déplacement, c'est plus qu'un déplacement, c'est moins qu'une simple visée ou qu'une simple représentation. Si vous voulez, c'est tout simplement le seul mode de rapport possible à ce qui se définit par un retrait ou par un recul, à savoir le monde. Autrement dit, le monde ne peut se donner que comme objet d'une aspiration, comme ce vers quoi ou ce dans quoi je m'avance. Donc, si vous voulez, le concept de désir, pour nommer l'essence de la perception, est absolument corrélatif à ce qui est visé dans ce désir, à savoir le monde comme tel. Autrement dit, si le monde s'absente de tout ce qu'il présente, si le monde se retire toujours derrière les étangs qui y paraissent, eh bien, il ne peut être donné qu'à un mode d'exister subjectif qui est constante avancée et constante déception. Et le désir, c'est cette avancée incessante qui, comme le dit Lévinas dans un autre contexte, qui est telle que le désiré ne le comble pas, mais le creuse, ou plutôt le creuse au moment où il le comble. Vous voyez ? Alors, pour revenir au sentiment, eh bien, ce que j'ai fini par comprendre, c'est que certes, le désir vise son objet en s'avançant vers lui.
Et ne fait que le faire reculer.
Exactement. L'objet qui est le monde recule à mesure que le désir avance vers lui. Et tout ce que le désir trouve, ce sont des objets, des perçus. Et le monde fait toujours défaut. Mais en revanche, ce qui est capital pour ce concept de sentiment, c'est que, de même que chez Platon, on ne pourrait pas chercher quoi que ce soit si on ne le connaissait pas déjà d'une certaine façon, sinon on ne pourrait même pas chercher, eh bien de même, le désir pour désirer doit déjà avoir trouvé ce qu'il cherche, sans quoi il ne pourrait même pas le désirer. Autrement dit, il faut au cœur du désir une initiation initiale, justement, une sorte d'ouverture première.
D'éveil,
si vous voulez, oui, à cela qui pourtant fera toujours défaut puisque le désir ne cessera de s'avancer vers lui, à savoir le monde comme tel. Eh bien, j'appelle sentiment, si vous voulez, cette dimension proprement affective du désir ou cette sorte de passivité première par laquelle il reçoit le monde afin de s'avancer vers lui. Mais à dire vrai, il n'y a pas de différence à faire entre le moment de la réception et le moment de l'avancée. Bien sûr que l'avancée suppose la réception, mais la réception, c'est-à-dire le sentiment, n'est pas séparable du mouvement qu'il suscite, si vous voulez. Et il y a le sentiment, c'est cela, c'est ce qui ouvre le monde comme tel. Et c'est pourquoi, pour revenir à votre remarque tout à fait juste, évidemment, sur l'angoisse, le sentiment, il n'est sentiment de rien au sens où il n'implique pas de vécu. Dans le sentiment, d'une certaine façon, je ne suis pas séparé de moi-même, rien ne s'interpose entre moi-même et moi-même, et c'est pour ça que d'une certaine façon, le sentiment, c'est le mode même par lequel j'accède à moi-même ou je réalise mon ipséité, si vous voulez. Mais simplement, ce que j'ai voulu montrer, j'insiste là-dessus, l'intuition, si vous voulez, qui me guide depuis longtemps et avant cet ouvrage, c'est qu'il n'y a pas d'alternative entre, disons, l'intimité, d'une part, et d'autre part, l'ouverture à une extériorité radicale. Bien au contraire, il me semble que la condition d'une véritable intimité, c'est-à-dire d'un vécu où rien ne me sépare de moi-même, d'une expérience où rien ne me sépare de moi-même, ou donc où je me rejoins vraiment, eh bien la condition de cette véritable intimité, c'est l'ouverture à une extériorité plus profonde que celle des objets.
En fait, c'est ce qu'on peut appeler une extimité, c'est-à-dire
exactement.
Que l'intimité est toujours hors d'elle.
Vous avez tout à fait raison, c'est exactement ça. Il y a une communication fondamentale entre l'intime et l'extime. Et je ne me rejoins vraiment qu'en étant vraiment dépossédé.
En fait, c'est le moment où je me retrouve, au moment où le monde s'ouvre à moi. Mais n'est-ce pas moi qui, même si effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le monde va comme m'appeler, ça va être le cerisier pour Jacotet, ça va être... ça s'applique pas à Scream, parce que du coup, elle n'est pas appelée par un sentiment, ni par le monde. Mais en revanche, ce monde-là, on le fait aussi exister, on le fait s'ouvrir. À nous, est-ce que là, on n'est pas dans le domaine aussi que vous avez traité dans un ouvrage précédent qui est Dynamique de la manifestation? C'est-à-dire que là, si le monde s'ouvre, c'est bien qu'il apparaît. C'est de l'ordre de l'apparaître et du phénomène.
Alors, le cadre théorique général de tout cela, c'est évidemment une phénoménologie, et plus précisément une phénoménologie de la perception, ou plutôt une phénoménologie de l'apparaître. C'est-à-dire, le point de départ, si vous voulez, qui d'une certaine façon caractérise la phénoménologie, c'est ce que Husserl a appelé l'a priori universel de corrélation. Ça veut dire simplement que l'être même du monde ne veut pas se distinguer de son apparition, hein, et qu'un monde qui n'apparaîtrait pas serait pas un monde. Ce qui veut dire que corrélativement, un sujet qui ne serait pas porté vers le monde, bref, qui ne serait pas intentionnel, ne serait pas un sujet. Donc ce qui est premier, c'est la relation. Alors ça veut dire très concrètement, ou très simplement en tout cas, que l'être du monde, c'est son apparaître, vous voyez, et toute la question, c'est de comprendre exactement quelle est la modalité de cet apparaître, étant entendu que si le monde se confondait avec ses apparitions, eh bien, il ne pourrait plus paraître, puisque qui dit paraître dit retrait, il dit venu ou paraître. Et donc, il faut réussir à penser à la fois cette proximité et néanmoins cette différence entre le monde comme tel et son apparition. Et tout ce que j'ai fait, enfin, en tout cas, les quelques derniers livres que j'ai écrits, vont tenter de rendre compte aussi précisément que possible de cette apparition du monde, vous voyez. Alors, je ne sais pas si je vous ai répondu, mais voilà le cadre théorique général.
Mais le monde comme tel existe-t-il ? C'est-à-dire que le monde n'existe que parce qu'il nous apparaît. Et inversement, nous n'apparaissons que dans un monde. Nous n'existons que dans un monde. Finalement, l'un et l'autre vont ensemble. Mais est-ce que le monde n'est pas seulement en soi, n'existe pas à part comme une idée ?
Alors, idée, non, certainement pas. Mais si vous voulez,
j'essaye de saisir en fait ce que vous entendez véritablement par monde, qui ne soit ni réductible à un milieu que l'on perçoit, qui soit à la fois ce vers quoi l'on tend mais qui se retire sans cesse, qui ne soit pas non plus le monde tel qu'on l'entend comme un globe terrestre, mais vraiment quel est ce monde en fait qui nous apparaît mais qui aussi peut exister en dehors de nous, mais en même temps nous-mêmes nous ne pouvons pas exister sans lui.
Alors c'est pas d'ailleurs en dehors de lui. D'ailleurs ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr, mais là vous avez parlé d'existence. Vous savez, le geste premier de la phénoménologie, c'est ce qu'on appelle l'époké phénoménologique, qui consiste à neutraliser ce qu'on appelle l'attitude naturelle. Et l'attitude naturelle, justement, elle est caractérisée comme ou par la thèse d'existence. Autrement dit, naïvement, pardonnez-moi, on est enclin à penser que cela autour de nous existe. Existe, ça veut dire quoi ? Existe en soi et n'a pas besoin de nous pour exister. Et simplement, l'époké phénoménologique, c'est ce geste absolument fondamental que Husserl a inventé, et que c'est tout à fait génial. L'époké, elle consiste non pas à douter de l'existence du monde, c'est-à-dire à supposer que le monde n'est pas comme l'a fait Descartes, mais simplement à neutraliser, à dévitaliser notre croyance spontanée à l'existence du monde. C'est-à-dire, le monde continue d'être là, mais on cesse d'y croire. D'y croire, je veux dire, comme d'une existence, celle que vous avez décrite. Or, ce qui est impressionnant, et ce qui est absolument frappant, c'est que ça ne change rien. C'est-à-dire tout simplement, si je neutralise la thèse d'existence du monde, le monde demeure le même. Ce qui veut dire tout simplement que le monde n'a pas besoin de l'existence, ou n'a pas besoin d'être une réalité en soi pour être le monde qu'il est. Et donc ça veut dire tout simplement que l'être du monde, c'est son apparaître. Et donc j'ai envie de vous dire, l'existence ne doit pas être distinguée de l'apparition. Voilà. Alors simplement, bien sûr, là vous avez raison, le monde pour autant ce n'est pas l'apparition puisque c'est ce qui apparaît. Mais ce qu'il faut réussir à comprendre, c'est que ce qui apparaît, s'il était vraiment distinct de l'apparition, eh bien je pourrais traverser l'apparition pour rejoindre ce monde et on retomberait sur une position naïve, vous voyez. Donc ce qu'il faut réussir à saisir, c'est cette sorte de profondeur interne, cette sorte de transcendance intime, qui fait que dans tel objet perçu, il y a quelque chose, et nous retrouvons la question du poétique, vous voyez, quelque chose qui m'appelle, qui me sollicite, mais qui d'une certaine façon ne peut être atteint qu'à travers les apparitions sous lesquelles il se donne, c'est-à-dire qui ne peut jamais être atteint en personne, vous voyez. J'ai envie de dire, pour prendre quelque chose, un exemple extrêmement simple, si vous prenez une couleur par exemple, d'ailleurs après tout on peut être fasciné par des couleurs comme par des sons, on peut avoir envie de revenir à telle ou telle couleur et éprouver une grande jouissance, un grand plaisir en tout cas à contempler telle couleur. Mais vous voyez, d'une couleur, par exemple ce rouge, d'un côté on peut dire il n'est rien d'autre que ce qu'il est, c'est du rouge, il n'y a rien d'autre à y chercher que du rouge. Et pourtant, on peut tout à fait faire l'expérience d'un désir de retrouver cette couleur, d'éprouver un très grand plaisir à la voir, etc. De telle sorte que d'un autre point de vue, il y a une sorte de profondeur interne, vous voyez, d'appel, hein, et qui peut induire un mouvement, mouvement dont Paul Valéry disait que c'est d'une façon l'acte de naissance de l'activité artistique en général, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de désir inhérent au sensible que peut-être l'activité artistique vient prolonger, et le monde c'est ça au fond. C'est ça. En tout cas, on peut le décrire comme ça. Donc, vous voyez, c'est une profondeur qui n'est pas la profondeur de quelque chose, qui est une sorte d'excès interne ou intime qui fait que telle ou telle chose est beaucoup plus que ce qu'elle est.
Silence les crayons sur les branches immobiles. Les arbres font des rayons et des ombres subtiles. Silence dans la maison. Silence sur la colline, c'est parfum qu'on devine, c'est l'odeur de saison. Mais voilà l'homme sous ce chapeau de paille, des taches plein sa blouse et sa barbe en bataille. Ses alpins. S'accomplir la magie de ses mains, ses alpins. Il éclaire le monde pour nos yeux qui ne voient rien. Si le bonheur existe, c'est une épreuve.
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez Les Chemins du Vendredi, où j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Renaud Barbaras, professeur de philosophie contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à l'occasion de la parution aux éditions du CERF de Métaphysique du Sentiment.
C'était à la grande exposition Cézanne qui avait lieu à l'Orangerie. Brusquement, un des tableaux m'a stupéfié. C'était la Sainte Victoire de ce qui était alors Leningrad. Ce tableau était, pour ainsi dire, vide, sans trace d'image familière ou non, presque sans trace de couleur. Mais du même coup, tous les autres tableaux étaient frappés d'une espèce d'irréalité. Ils étaient seulement réels par convention. Celui-là m'a imposé cette dimension de la réalité qui était en liaison directe avec celle de mon existence. Et pour la première fois sans doute, je me suis senti réellement exister en présence d'une œuvre. Dans cette coprésence où nous nous trouvions, cette œuvre unique et moi unique, et tous les deux en cette présence, communiquant, ou plutôt connaissant l'un avec l'autre.
Renaud Barbaras, c'est la voix d'Henri Maldinet qu'on vient d'entendre, le philosophe Henri Maldinet, dans une archive du 4 février 2002, c'était dans un Avoine Nue diffusé sur France Culture, et il y raconte l'expérience qu'il a faite devant un tableau de Cézanne, de l'expérience poétique, alors à l'expérience sentimentale dont on a parlé. Quelle part accordez-vous à cette expérience esthétique que vous avez un tout petit peu abordée et dans laquelle on retrouve aussi cette importance du sentir ?
Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le concept de sentiment que je forge dans ce livre a une signification, une portée ontologique. Hein. Donc, le sentiment, il est par essence sentiment du monde, ou plutôt ouverture au monde comme tel, et rien d'autre. Néanmoins, comme je l'ai indiqué aussi, évidemment, le point de départ de l'usage de ce concept, c'est précisément Dufresne, et c'est-à-dire l'usage esthétique de ce concept. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement que, en effet, même s'il n'y a qu'un sentiment et qui est sentiment du monde, il y a quelques expériences privilégiées, vous voyez, où se fait jour le monde et donc qui, d'une certaine façon, incarne, modélise ce sentiment fondamental. Et l'une des expériences, c'est précisément l'expérience esthétique. Ce que je veux dire simplement, c'est que même si l'expérience esthétique, selon Dufresne, ouvre seulement un monde, eh bien, dans l'ouverture de ce monde, c'est déjà un accès au monde comme tel qui nous est délivré beaucoup plus que dans toute autre expérience, vous voyez. Alors, c'est évidemment ce que Maldinet Mais en évidence, pour Maldinet, l'œuvre d'art a un statut absolument fondamental, puisque elle fonctionne précisément comme épopée phénoménologique, puisque j'en parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, seule l'œuvre d'art qu'il conçoit comme un événement, qu'il nomme transpossible, c'est-à-dire au-delà de tout possible, donc c'est pour insister sur la dimension absolument imprévisible et contingente, en quelque sorte, de cet événement, eh bien, seule l'œuvre d'art ouvre le monde comme tel. Chez Maldinet. Et donc, effectivement, il s'ensuit, c'est ce qu'il dit dans cet extrait, il s'ensuit que cette ouverture du monde comme tel par cet événement transpossible qu'est l'œuvre d'art, elle implique, d'autre part, une transformation en profondeur de mon existence. C'est-à-dire que percevoir une œuvre d'art ou recevoir une œuvre d'art, c'est pas simplement accueillir quelque chose
passivement,
sans changer de quelque façon que ce soit, c'est nécessairement une transformation, c'est devenir un autre.
Et comment vous vous situez par rapport à Henri Maldinet? Parce que vous le citez dans votre livre Métaphysique du sentiment, vous citez aussi, vous consacrez même un chapitre à Henri Maldinet, à Michel Henry, à Merleau-Ponty et à Heidegger. Néanmoins, vous les citez pour vous en écarter. Seul Michel Dufresne, finalement, est l'auteur, le philosophe que vous citez, on va dire, positivement. En quoi vous distinguez-vous, en fait, de ces quatre penseurs et peut-être en particulier de Henri Maldinet, dont on a entendu la voix?
Écoutez, ce serait peut-être un tout petit peu long et technique de développer ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour préciser, renforcer en quelque sorte ma théorie du sentiment, j'étais conduit naturellement à la confronter à d'autres théories de l'affectivité, voilà, qui confèrent un rôle fondamental à l'affectivité. Et ce qui importe, c'est l'ordre dans lequel je les aborde à la fin de ce livre, disons du plus éloigné au plus proche. Le plus éloigné, c'est évidemment Michel Henry, et le plus proche, c'est évidemment Henri Maldinet. Alors, Michel Henry, c'est pas très compliqué à comprendre, puisque au fond, Michel Henry, c'est le théoricien de l'auto-affection pure, et c'est le théoricien de la critique de ce qu'il appelle le monisme métaphysique, c'est-à-dire le primat absolu accordé à l'extériorité, à l'extase, comme il dit, à la lumière comme condition d'apparaître, pour Michel Henry. Toute la tradition est caractérisée par le fait que apparaître, au fond, c'est toujours apparaître à distance, c'est toujours apparaître là-bas. Donc c'est la dimension extatique de l'apparaître, à quoi Michel Henry oppose un sens plus originaire de la phénoménalité, qui est justement un apparaître sans aucune distance, une sorte de proximité à soi fondamentale, une étreinte, comme il dit, de soi avec soi, qu'il appelle auto-affection pure, voyez, qui est l'affectivité comme telle, la souffrance, la joie, etc. Bon, je m'oppose radicalement à Michel Henry parce que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le sentiment dont je parle, certes, c'est une auto-affection, c'est même une archi-auto-affection, mais ce que je veux montrer, c'est qu'elle a, pour condition fondamentale, une ouverture à une extériorité. Autrement dit, le régime de l'extase ou de l'extériorité est au cœur du sentiment. De ce point de vue-là, je m'oppose radicalement à Michel Henry. Bon, maintenant, je ne vais pas insister ni sur Merleau-Ponty, ni sur Heidegger. J'en viens à Maldinet. Alors évidemment, Maldinet, il y a une proximité, évidemment, avec Maldinet, au sens où, chez Maldinet, évidemment, il y a une pensée de ce qu'il appelle la transpassibilité, c'est-à-dire l'ouverture au transpossible, à savoir une sorte de passivité fondamentale, d'affectivité fondamentale par laquelle je reçois, j'allais dire, le monde, et plus précisément, le monde à travers cet événement transpossible qu'est l'œuvre d'art. Alors simplement, ma réserve ou mes réserves avec Maldinet sont de plusieurs ordres. La première réserve, elle concerne le statut de l'événement. Dans ma construction, le monde et les modalités d'apparition du monde ne relèvent pas du tout de l'événement. Dans ma perspective, l'événement relève de précisément ce que j'ai appelé métaphysique, à savoir l'événement, c'est nécessairement l'événement d'une séparation avec le monde. C'est tout à fait capital puisque c'est ce qui permet de comprendre le projet de ce travail, qui est le suivant. Je suis parti d'une théorie de l'événement comme scission avec le monde. C'est ce dont nous avons parlé tout à l'heure à propos du langage et de la perception, vous voyez. Et je ne rentre pas dans le détail, mais j'étais amené à conclure que notre situation de finitude, disons de séparation avec le monde, c'est quelque chose qui arrive au monde, qui affecte le monde, sans que le monde en soit la cause ou la raison. Et ça, c'est précisément la définition de l'événement. Donc, si vous voulez, notre existence séparée, notre existence exilée, elle procède de ce que j'appelle un archi-événement, qui est l'événement d'une séparation fondamentale, encore
archi
une fois.
Archi, à entendre, non pas au-dessus,
mais originaire,
au fondement,
originaire, premier, événement, donc de séparation, qui affecte le monde, mais dont le monde n'est pas la cause. Qu'est-ce que c'est qu'un événement? C'est quelque chose qui arrive sans cause ni raison. Et comme le dit François Furet, d'ailleurs, que je cite dans cet ouvrage, plus un événement est lourd de conséquences, moins on peut l'expliquer à partir de ses causes. C'est-à-dire qu'un vrai événement, c'est quelque chose dont on ne peut rendre raison, dont on ne peut trouver les causes, vous voyez? Et donc, c'est en ce sens que je parle d'un événement séparateur. Alors, pour revenir donc à Maldinet, Maldinet lui situe l'événement du côté du monde, vous voyez, du côté de ce qui ouvre le monde, c'est-à-dire du côté de ce que je nomme, moi, ontologie, alors que je situe l'événement, en le pensant comme événement séparateur, vous voyez, je le situe du côté de ce qui nous sépare du monde. Et là, c'est une première difficulté. La seconde difficulté, sans m'apesantir sur ce point, mais elle est capitale, c'est que, si vous voulez, il me semble que le risque de Maldinet, c'est de basculer du côté d'un empirisme. Je m'explique, et donc de sortir de l'horizon phénoménologique, parce que, comme d'ailleurs on l'a vu tout à l'heure, chez Maldinet, c'est l'événement, ici l'œuvre d'art, qui ouvre et qui produit en quelque sorte son propre accueil, et donc qui produit la transformation du sujet. Ce qui veut dire que d'une certaine façon, il n'y a aucune dimension de réceptivité, même minimale ou virtuelle, préalable à l'accueil. Donc ce qui veut dire que d'une certaine façon, c'est le sujet qui est constitué
par l'événement,
loin qu'il soit en mesure de l'accueillir. Et donc la dimension minimale même de la visée, de la disposition, de l'accueil, fait défaut chez Maldinet, vous voyez. Donc tout repose sur le surgissement. Et donc, il me semble que fait défaut une théorie du sujet, parce que si vous voulez, la transpassibilité, elle ne précède pas le surgissement de l'événement. Elle est ouverte par l'événement. Et donc, manque, me semble-t-il, une théorie du sujet qui ferait droit, en quelque sorte, à cette dimension, précisément, de réceptivité originaire, vous voyez.
Mais... Comment demandez-vous ?
Dites-moi... Un petit brin que vous m'aimez. Tenez, je vous aime, moi. Faites l'écho. Répétez, princesse.
Quel insatiable. Eh bien, monsieur, je vous aime.
Eh bien, madame. Je me meurs. Mon bonheur me confond. J'ai peur d'en courir les champs. Vous m'aimez. Cela est admirable.
J'aurai lieu à mon tour d'être étonnée de la promptitude de votre hommage. Peut-être m'aimerez-vous moins quand nous nous connaîtrons mieux.
Hélas, madame, quand nous en serons là, j'y perdrai beaucoup. Il y aura bien à décompter.
Vous me croyez plus de qualité que je n'en ai.
Et vous, madame, vous ne savez pas les miennes. Et je ne devrais vous parler qu'à genoux.
Souvenez-vous qu'on n'est pas les maîtres de son sort.
Nous sommes en mesure de justifier cette communication entre le plus intime et le plus transcendant, communication qui nous semble être le propre du sentiment. Il apparaît qu'en s'approfondissant et en devenant par conséquent lui-même, le sujet s'ouvre radicalement à ce qui n'est pas lui, c'est-à-dire non pas à l'objet, mais au monde lui-même. Pour lui, être pleinement lui-même et s'ouvrir à l'autre, entrer en soi et sortir de soi, ne font plus alternative. Tout se passe comme si en s'approfondissant, c'est-à-dire en se situant au plus près de lui-même, le sujet s'ouvrait à la profondeur du monde et se dessaisissait de lui-même, s'oubliait lui-même au profit de ce monde. Mais il faut comprendre que ce dessaisissement est accomplissement, que cet oubli est réalisation. L'amour apparaît comme paradigmatique, pour ainsi dire comme le sentiment de tous les sentiments. L'amour peut être caractérisé comme un vécu qui est indistinctement transformation de soi sous la forme d'un approfondissement et découverte d'un autre, étant entendu que celui-là à la fois la permet et est suscité par elle. Renaud Barbaras, tout à l'heure, en parlant de Henri Maldinet, vous avez souligné le fait qu'il manquait peut-être chez Maldinet une pensée du sujet, en tout cas de l'accueil, et c'est ce que vous, vous développez dans Métaphysique du sentiment, dont je viens de lire un extrait, c'est dans votre seconde partie qui s'intitule Le sentiment, en fait, et vous vous ouvrez cette seconde partie avec l'amour, en fait, qui est ce que vous décriviez tout à l'heure, à la fois cette manière d'être ouvert à l'événement, d'être ouvert à l'autre, mais en même temps d'être transformé, et il y a à la fois cette idée d'accueil, mais aussi de transformation qui la permet de penser le sujet.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ce que j'ai dit tout à l'heure pour le sentiment esthétique, et encore une fois, je suis parti là-dessus du Dufresne, vaut également et peut-être encore plus pour le sentiment amoureux. C'est-à-dire, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a qu'un sentiment, c'est le sentiment du monde, pour dire vite, mais il y a certaines relations à des étangs du monde qui manifestent de manière privilégiée et qui mettent au jour de manière privilégiée le sentiment lui-même comme sentiment du monde. Et ces deux relations, eh bien, c'est la relation esthétique et c'est la relation amoureuse. Tout se passe comme si, au fond, dans certaines régions du monde, à savoir la région de l'œuvre d'art et la région de l'autre dans la relation amoureuse, eh bien, le monde se repliait sur lui-même, vous voyez, et comme si le monde lui-même paraissait en une région de lui-même. Et donc, comme si certaines expériences au sein du monde se débordaient elles-mêmes vers le monde. Et c'est, de manière caractéristique, c'est le cas du sentiment amoureux. Et effectivement, vous avez très bien choisi ce texte. En effet, ce qui est frappant dans le sentiment amoureux, c'est qu'il n'y a aucune alternative entre une sorte d'épreuve de soi plus intense que toutes les autres, et d'autre part, l'ouverture à une extériorité beaucoup plus profonde que toutes les autres. C'est-à-dire que c'est justement dans cette ouverture à un autre, et au fond le sentiment amoureux, c'est quoi? C'est ce qui tout à coup m'initie à une altérité, à une certaine altérité, et enclenche le désir. Vous voyez? Eh bien, dans cette sorte d'initiation première, de dépossession première, bien loin que je me perde, loin que je fusionne avec une extériorité, bien au contraire, je me retrouve beaucoup plus profondément, radicalement, que dans toute autre expérience. Et donc, on voit bien ici qu'il n'y a aucune alternative entre un être auprès de soi intime et intense et une ouverture à une extériorité, une transcendance qui est une des plus celle de l'objet. Et d'ailleurs, même dans la vie amoureuse et dans la sexualité, on fait bien l'expérience d'une épreuve de soi dans la dépossession. On se trouve en se perdant, vous voyez. Donc il y a quelque chose comme ça. Alors j'ai envie de dire du coup que le sentiment amoureux est au désir empirique, vous voyez, disons, désir sexuel, c'est-à-dire désir tel qu'on l'entend en général, ce qu'est le sentiment, comme sentiment du monde, au désir, comme véritable nom de l'intentionnalité, vous voyez. C'est-à-dire que, dans les deux cas, on voit bien, ce que j'ai tenté de décrire tout à l'heure, on voit bien qu'il y a une sorte de donne initiale, d'ouverture initiale, vous voyez, que j'appelle sentiment, qui est la condition de possibilité de ce mouvement que j'appelle désir. Et, si vous voulez, ça me permet de faire une théorie de l'amour, en le distinguant du désir, et en disant, ben, au fond, l'amour, c'est exactement ce qui, dans le désir, donne le cap. Hein. Tout à coup, je rencontre quelqu'un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque chose est à explorer, vous voyez?
Mais il faut avoir cet accueil, en fait. Comment dire, être prêt à accueillir ça, ce que vous reprochiez, entre guillemets, à Henri Maldinet. À quel moment, en fait, on est, cet accueil-là est présent? On a entendu, juste avant le texte que j'ai lu, un extrait de Marivaux, c'était Le jeu de l'amour et du hasard. On entendait Lisette et Arlequin, en fait, qui sont les deux domestiques déguisés en maîtres, qui s'avouent leur amour, mais sans savoir que l'un et l'autre ne sont pas ce qu'ils sont. Et pourtant, ils s'aiment pour ce qu'ils sont, alors même qu'ils ont des apparences différentes. Est-ce que le sujet qui est en question et cette disponibilité du sujet que vous évoquez, Renaud Barbaras, est réductible à cette idée d'identité? Qu'est-ce que le soi, en fait, qui est en jeu dans votre texte?
Écoutez, si je peux préciser les choses, en un mot, le reproche que je ferai à Henri Maldinet, c'est que, et d'ailleurs c'est assumé de son côté, c'est qu'il n'y a pas de théorie de l'intentionnalité, vous voyez? Alors que ma perspective, évidemment, relève d'une théorie de l'intentionnalité. Intentionnalité que je pense comme désir, vous voyez. Et donc, ce que je veux dire simplement, en quoi mon travail relève de la phénoménologie, c'est que la condition de l'apparaître, tout simplement, et donc de l'apparaître du monde, c'est effectivement un certain mode d'exister, et donc une certaine intentionnalité. Simplement, cette intentionnalité, je la pense comme désir, bien entendu, pour les raisons que j'ai explicitées tout à l'heure. Et d'autre part, et c'est le sens et l'objet de ce dernier livre, eh bien, j'ai fini par comprendre, encore une fois, qu'il n'y a pas de désir sans une sorte de réceptivité première, de disponibilité, c'est peut-être le bon terme, vous voyez, au monde, sans laquelle, tout simplement, ce mouvement n'aurait pas d'orientation, n'aurait pas de cap. Donc, je crois qu'au cœur du désir, il y a le sentiment, vous voyez, comme exposition première à cela qui reste à explorer indéfiniment. Or, en effet, si on se réfère à l'expérience amoureuse, c'est bien exactement de ça qu'il s'agit. Il y a une sorte d'exposition première, d'événement, en un sens, c'est vrai. Hein. Mais simplement, c'est un contre-événement, puisque c'est ce qui me permet de rejoindre ce dont je suis séparé. D'événement qui va rendre possible et qui va motiver ce qu'on appelle désir au sens le plus courant et le plus simple.
Et quel est le soi que l'on retrouve, que l'on transforme ?
C'est un soi sans contenu, c'est un soi vide. C'est-à-dire, ce qui est très frappant, c'est que dans l'expérience du sentiment, on est incapable de lui assigner un contenu. C'est l'expérience plutôt d'une dissolution d'un certain nombre d'évidences, de structures, etc. Donc c'est l'expérience d'un certain vide. Et effectivement, et le vide, c'est la condition de la disponibilité au monde. Vous voyez, donc c'est un vide, mais c'est pas, ça ne veut pas dire désaffection. C'est un type d'affect que j'appelle sentiment qui n'a pas d'autre contenu que cette pure passivité ou que ce pur accueil.
Et est-ce qu'on se sent disponible ? Ou est-ce qu'en fait on est disponible sans le savoir ? C'est-à-dire que vous partez du principe, Renaud Barbaras, que les sujets sont désirants. Désirants, donc du coup disponibles, réceptifs à l'appel de l'événement et du monde. Est-ce qu'on pourrait partir du principe qu'un sujet n'est pas désirant ou qu'il n'est pas disponible à l'appel du monde ? Qu'il Alors, refuse cet appel du monde ?
Écoutez, moi je me situe à un plan qui n'est pas un plan en quelque sorte empirique. Et là, on ne peut pas répondre à votre question comme telle. Je me situe à un plan qui est celui du mode d'être du sujet, et c'est-à-dire de tous les sujets que nous sommes, en tant que ce sujet a un monde, en tant qu'un monde lui apparaît. Et ma question, c'est quel est le mode d'être d'un sujet en tant qu'il est capable d'avoir un monde, voyez ? Et à quelles conditions ce sujet peut-il faire paraître, c'est-à-dire percevoir, au fond, ce monde ? Alors ça, donc, c'est une structure ou un mode d'exister constitutif de toute existence. Maintenant, les modalités que ça prend, les manières dont, effectivement, cette dimension fondamentale est recouverte, occultée, ou au contraire libéré, eh bien, il n'y a pas de réponse autre que relevant de l'histoire, vous voyez, que de la contingence pure. Everything was going to kick off the bust of a show. And I'm stuck here. City I built up and put it out. I'm stuck here waiting for a blessing feeling. Still I send all the time my request for relief down a dead power line. Though I'm beyond belief in the help I just to insist at all. Took a long time to stand, to get power to fall. I'm stuck here waiting for a passing feeling. Merci beaucoup Renaud Barbaras d'être venu nous parler de votre livre qui vient de paraître aux éditions du CERF, Métaphysique du sentiment. Et puis je rappelle que cette métaphysique du sentiment s'inscrit dans la continuité de votre livre précédent, Dynamique de la manifestation, disponible chez Brun. Et puis j'ai aussi plaisir à citer d'autres de vos ouvrages, récemment l'introduction à la philosophie de Husserl, disponible chez Brun, ou encore La vie lacunaire chez Brun aussi. C'est moi qui vous remercie.
Et chers auditeurs, nous nous retrouvons lundi pour une nouvelle semaine des Nouveaux Chemins. Et la semaine prochaine, c'est avec Steven Spielberg que nous philosopherons à l'occasion du Festival de Cannes, où sera présenté hors compétition son film Le Bon Gros Géant. Mais quant à nous, nous irons d'Indiana Jones à Intelligence Artificielle, de E.T. à Amistad, de l'enfance au monstre, en passant par l'aventure et l'histoire. Et puis quant à vous, et bien pour écouter cette émission et celle de cette semaine sur la philosophie espagnole, rendez-vous sur le site de France Culture à la page de Nouveaux Chemins. Vous pourrez non seulement l'écouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster et aussi y trouver toutes les références bibliographiques et musicales.
Rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins, où toute l'équipe met en ligne l'émission du jour. Vous écoutez France Culture, il est 10h54, c'est-à-dire l'heure de retrouver Christophe Onodigo pour le temps des libraires, suivi à 11h de Culture Monde par Florian Delorme.